Quel Dieu merveilleux tu es. Merveilleux, merveilleux Seigneur dans tout ce que tu fais, mais aussi merveilleux dans ton être. Quelle grâce de t'avoir comme Dieu dans nos vies. Quel privilège d'appartenir à ton royaume et d'expérimenter, Seigneur, au quotidien ton règne. Ce règne de paix, ce règne de victoire, ce règne de sagesse, de justice. Oh, merci pour tout. Nous a accueilli favorablement ta présence. Seigneur, en nous donnant l'occasion de faire monter vers toi notre prière, notre louange, notre adoration. Tu nous as donné, Seigneur, cette occasion de nous tenir devant toi pour t'exprimer toute notre reconnaissance pour cette année qui s'achève bientôt. En ce dimanche, Seigneur, 31 décembre, dernier dimanche de l'année, nous voulons te tendre une oreille plus qu'attentive afin que tu nous parles et que nous, ce que nous allons recevoir puisse nous aider, non seulement, Seigneur, à bien terminer cette année, qui dans quelques heures, Seigneur, appartiendra désormais au passé, mais que ce que nous allons entendre, Seigneur, puisse nous donner la force d'entrer dans la nouvelle année en ayant nos regards fixés sur toi, l'initiateur et l'accomplisseur de la foi qui nous anime. Seigneur, merci. Certes, cette année va bientôt s'achever. Cette année, ô Dieu, arrive à son terme. Beaucoup de choses se sont passées tout au long de cette année. Seigneur, nous l'avons commencé d'une certaine manière et nous la terminons d'une autre manière. Mais une chose est sûre, toi tu es resté égal à toi-même. Tu es resté le même. Oh, alléluia. Tu n'as pas changé. Tu es resté assis sur ton trône. Et à partir de ton trône, Seigneur, tu étends ton règne dans tout l'univers, et en particulier dans nos vies. Parle-nous, à l'occasion, Seigneur, de ce dernier dimanche de l'année. Parle-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, veuillez vous rasseoir. Voilà, donc après ce moment de prédication, nous allons avoir un temps où nous allons, sur invitation du Seigneur, nous retrouver autour du repas, pour célébrer sa mort, mais aussi sa victoire, et proclamer que celui qui est venu, qui a vécu parmi nous, qui a donné sa vie à la croix, qui est ressuscité au troisième jour, qui, après un certain temps, donc ici-bas, après sa résurrection, eh bien, il est monté auprès de son Père, où il a été accueilli de manière plus que glorieuse, et notre Père l'a fait asseoir à sa droite, au-dessus de toute principauté, de toute souveraineté, de tout pouvoir et de toute puissance, quelle qu'elle soit. Amen. Et donc, avant de célébrer la Sainte Cène, nous allons, alors que nous sommes assis à ses pieds, lui tendre notre oreille afin qu'il nous parle. Ce matin, je voudrais donc parler d'une expérience qui doit avoir lieu en amont si nous voulons expérimenter des grandes choses en avant. Voyez-vous, c'est toujours l'amont qui conditionne l'aval. Nous ne pouvons pas nous attendre à expérimenter des grâces merveilleuses. Nous ne pouvons pas nous attendre à expérimenter des victoires dans toutes sortes de combats rencontrés en aval si en amont, quelque chose ne s'est pas passé. Voilà pourquoi nous allons parler aujourd'hui de cette nécessité d'être transformé pour triompher. Amen. Transformé pour triompher. Et gloire à Dieu. Le triomphe, eh bien, n'arrive pas au hasard. Voyez-vous, le triomphe, la victoire que Christ nous a acquise, mes amis, eh bien, ne tombe pas sur nous comme ça au hasard, alors que nous menons une vie oisive, alors que nous menons une vie marquée par toutes sortes de distractions, pas du tout. La victoire est conditionnée par un processus qui doit se passer en amont. Alléluia. Et en amont, nous devons être absolument transformés afin de vivre de grandes choses en aval. Transformés pour triompher. Nous allons lire sans plus tarder dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 11 jusqu'au verset 18, qui est donc la fin de ce chapitre 3. Nous lisons, en effet, nous dit la parole, si ce qui passe a eu sa gloire, a bien plus forte raison ce qui demeure est glorieux. Ayant donc une telle espérance, nous usons d'une grande liberté. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils se sont endurcis, les Israélites évidemment, ils se sont endurcis dans leurs pensées, car jusqu'à ces jours, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure. Il n'est pas enlevé parce qu'il ne disparaît qu'en Christ. Le voile de l'incrédulité, le voile du doute, de l'aveuglement, de l'obscurantisme spirituel et religieux, ce voile ne disparaît qu'en Christ et en Christ seul. Alléluia. C'est par sa mort que le voile du temple s'est déchiré, et c'est aussi en lui et par lui que le voile de l'incrédulité peut être déchiré. Verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, d'une gloire vers une gloire plus grande, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Nous sommes transformés de gloire en gloire. La victoire. Le triomphe. Voilà ce qui devait, mes amis, marquer la vie de chacun de nous en tant que disciples du Christ. C'est lui qui est en nous et celui qui a vaincu, mes amis, la bataille contre les puissances des ténèbres, là, à Golgotha. Et comme il est en nous, eh bien, nous ne devrions pas avoir des problèmes à expérimenter sa victoire au quotidien, à vivre et à demeurer dans le triomphe, mes amis, qu'il a accompli à la croix. Sur ce bois infâme de la croix, il a poussé ce cri qui a traversé l'espace et le temps. Tout est accompli. Alléluia. Il a pourvu au combat. Oui, nous sommes engagés dans un combat, frères et sœurs. Je me permets de vous le rappeler aujourd'hui. Nous sommes engagés dans une bataille dont l'enjeu principal et notre salut. L'enjeu principal, c'est notre éternité. N'oublions jamais que nous ne sommes que des passagers sur cette terre. Nous ne sommes que des pèlerins en route vers notre vraie patrie. Nous ne sommes qu'en séjour ici-bas, voyez-vous. Et puis un jour, nous quitterons cette terre à laquelle nous sommes tant attachés pour passer dans l'éternité. Mais ce que nous serons dans l'éternité dépend de la manière dont nous aurons vécu, de la manière dont nous aurons géré notre vie ici-bas. Alléluia. Le Christ a triomphé. La parole de Dieu est formelle. Il a vaincu la mort par sa mort. Il a vaincu la mort par sa résurrection. Il a vaincu les puissances des ténèbres. Il les a humiliées, il les a écrasées. Il a réduit à l'impuissance la puissance de la mort. Il a brisé la puissance du péché. Il a écrasé tous les démons, toutes les puissances, les forces du mal. Il a vaincu le monde. Alléluia. La même parole qui nous présente Christ comme étant le grand triomphateur, celui qui a dépouillé les puissances des ténèbres, qui a écrasé Satan à la croix, cette même parole qui est la vérité, eh bien nous dit qu'en lui, en Jésus-Christ et par Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Celui qui a combattu et qui a vaincu. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous fassions tout pour demeurer dans sa victoire. Et demeurer dans sa victoire, mes amis, n'est pas quelque chose qui pourrait nous arriver comme ça au hasard, au détour d'un chemin. Pas du tout. Cette victoire est appelé à être le résultat d'un processus qui est appelé à se passer là, en amont. Oh, alléluia. Tout en sachant que nous sommes plus que vainqueurs, tout en ayant reçu cette révélation selon laquelle le Seigneur a vaincu à la croix, eh bien, beaucoup d'entre nous ont cependant des difficultés à expérimenter cette victoire au quotidien. Beaucoup d'entre nous éprouvent des difficultés à faire face à la tentation, quelle qu'elle soit. Voyez-vous, beaucoup d'entre nous sont à des années-lumière de cette déclaration de la Bible selon laquelle en Christ nous sommes plus que vainqueurs. Dans la plupart des cas, nos vies sont sans puissance. Dans la plupart des cas, mes amis, nos vies sont stériles, ne portent aucun fruit surnaturel. Nos vies ressemblent à un bois sec. Nous sommes incapables de résister à la tentation, incapables de faire face aux différents assauts de l'ennemi, alors que le Seigneur a pourvu à la victoire, alors qu'il a mis à notre disposition toute une panoplie spirituelle, des armes à la fois offensives et défensives, cette armure qui est là et qui est plus que puissante par la vertu de notre Dieu. Malgré tout cela, eh bien, nous sommes incapables de triompher face au péché. Oui, tout cela, alors que tout a été accompli, alors que tout a été achevé, parfaitement achevé à la croix. Pourquoi alors expliquer cette impotence? Pourquoi expliquer ce manque de puissance, cette incapacité à triompher de nos ennemis, à triompher de nos adversaires, à marcher sur la puissance des scorpions de ce monde, des ténèbres qui envahissent de plus en plus notre monde, plongeant les nations dans toutes sortes d'angoisses, incapables de rester debout et de faire face à toutes sortes de tempêtes, surtout dans ces temps de la fin, où l'ennemi, mes amis, a fait lever toute son armée pour distraire son Église, pour l'éloigner de son chef. L'ennemi est en train de tout faire. Il a mis sur pied tout un tant de dispositifs de séduction, d'égarement. On n'a jamais vu une telle incrédulité comme on en voit aujourd'hui. Alors même qu'on n'a jamais vu, on n'a jamais eu autant de livres d'édification sur le marché. Ça fait plus de 40 ans que le réveil est venu dans ce pays, le vrai réveil. Je parle du vrai réveil qui est le produit du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Je ne voudrais pas verser dans la nostalgie des années 80, quand nous nous convertissions, quand nous aimions le Seigneur de tout notre cœur, quand Jésus était tout pour nous, quand nous étions prêts à le suivre partout, à braver tant d'éléments adverses. Nous aimions la parole, nous la mangeons régulièrement. Nous ne pouvions pas nous retrouver sans avoir un petit moment pour partager la parole, pour manger la parole. Voyez-vous, nous espérions que tout cela, cet héritage demeure. Mais vous devez convenir avec moi que nous avons tout de suite vite déchanté. Regardez aujourd'hui comment tous ces aventuriers, ces troubadours des ténèbres, manipulés par des puissants des ténèbres, égarent l'Église. Regardez tous ces pasteurs qui vampirisent l'Église, qui bestialisent les troupeaux du Christ. Les gens suivent comme ça. Les mêmes gens nagent dans toutes sortes de péchés abominables. Les mêmes gens se tiennent derrière la chair, font des fausses prophéties. Les mêmes gens se tiennent derrière la chair, racontent des salades, des ténèbres. Malgré tout cela, vous avez encore de gens qui les suivent. Vous avez encore de gens, mes amis, qui continuent à être là. Vous participez au mal. Voyez-vous. Vous devez, par votre attitude, condamner le mal. Voyez-vous. Et tout cela fait qu'aujourd'hui l'Église soit une Église avachie, une Église sans énergie, une Église qui ressemble à une pétaudière, à une sorte de Capharnaüm où règne l'immoralité, l'idolâtrie, le vol, le mensonge, la tromperie et tous ces péchés abominables. Pourquoi cette incapacité de pouvoir résister à tous ces vents de doctrine, de fausses doctrines, ces vents d'hérésie qui soufflent de plus en plus? Comment nous n'arrivons pas à faire face à tous ces nuages toxiques, spirituels, qui envahissent et détruisent tout sur leur passage? Oui, qui envahissent nos villes, incapables de faire face à des circonstances adverses, de faire face à des épreuves, contrairement aux héros de la foi. Lisez la Bible. Ces hommes étaient de la même nature que nous. Ils ont connu des épreuves. Ils ont fait face à la persécution, au rejet. Mais ils ont tenu bon. Ils ont expérimenté la victoire du Seigneur. Comment expliquer? C'est le même Dieu, non? Le même Dieu que nous servons. Si c'est vraiment le même Dieu qui a été avec ces héros de la foi, si c'est le même Jésus qui a agi, mes amis, là, lors de sa venue sur cette terre, alors, il n'y a pas de raison que le même Jésus n'agisse pas aujourd'hui dans notre vie et à travers notre vie. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Avec Dieu, il n'y a pas de favoritisme, voyez-vous. Dieu n'a pas été plus favorable avec la génération des premiers disciples qu'il serait moins avec nous aujourd'hui. Son amour ne change pas, sa puissance non plus. Ce que Jésus a été à l'époque du Nouveau Testament, il est encore aujourd'hui et il restera éternellement. C'est Jésus qui a agi dans l'Église primitive. C'est une Église conquérante, une Église triomphante, une Église qui n'a pas abdiqué, qui a continué à conquérir des territoires pour la gloire du Seigneur. Eh bien, c'est Jésus-là et le même encore aujourd'hui. Il est le Tout-Puissant. Oh, alléluia. Mais aujourd'hui, nous devons admettre que nous avons un problème à expérimenter. C'est que les autres ont expérimenté. Le Seigneur est désireux de faire dans nos vies, de faire dans l'Église d'aujourd'hui, ce qu'il a fait dans la vie des premiers disciples, ce qu'il a fait dans la vie de la première Église. Faire cela de manière majestueuse, de manière surnaturelle. Regardez le livre des Actes, et là vous voyez, mes amis, de quoi le Seigneur est capable. Ces gens n'avaient pas reçu des recommandations de la part des autorités politiques ou autres. Ils étaient une minorité. Cependant, ils ont bouleversé en peu de temps le monde. Alléluia. Ils ont changé le destin des nations. Partout où ils ont été, ils ont proclamé le Christ. Partout où ils ont été, ils ont renversé l'idolâtrie. On les a persécutés, ces premiers disciples, mais n'ont jamais reculé. Voyez-vous, une Église conquérante. Mes amis, c'est le même Jésus aujourd'hui. Il n'y a pas de raison que Dieu ne puisse pas agir aujourd'hui de la même manière qu'il a agi autrefois. Il n'y a pas plus de démons aujourd'hui qu'il y en avait à cette époque-là. Les démons ne se reproduisent pas. Oui. Ce sont les mêmes démons. Et pourtant, face à la première Église, ces démons ont passé des mauvais quarts d'heure. Voyez-vous? Non. Les démons ne sont pas plus puissants aujourd'hui qu'ils l'étaient à l'époque biblique. Ce sont les mêmes démons, les mêmes puissances des ténèbres. C'est le même diable, c'est le même royaume. Voyez-vous? Il y a donc alors un problème. Quel est ce problème? Quel est cet obstacle qui nous empêche de vivre pleinement le triomphe du Christ, d'aller de gloire en gloire? mes amis, quel est cet obstacle majeur? Eh bien, cet obstacle n'est pas loin de nous. Cet obstacle est parmi nous. Cet obstacle est en nous. À force de considérer les adversaires du dehors, à force de regarder aux montagnes qui se dressent devant nous, à force de regarder à toutes ces tempêtes qui sont là et qui soufflent de plus en plus, nous avons fini par oublier que le premier adversaire, l'adversaire redoutable contre lequel nous devons d'abord et avant tout nous battre, se trouve en nous. Quel est cet adversaire? Partout où nous voyons cet adversaire se manifester dans la parole de Dieu, partout là, les gens ont été privés de la puissance de Dieu. Pour aller vite, parce que nous devons avoir la Sainte Cène, cet adversaire redoutable, cet adversaire qui est en nous, n'est autre que l'incrédulité, n'est autre que le manque de foi. On ne le dira jamais assez. C'est la foi qui triomphe du monde. Dans le combat dans lequel nous sommes engagés, on a besoin de foi. Or, ce qui ne suscite pas la foi en nous, ce qui nourrit pas notre foi, la détruit. Notez bien cela, vous qui aimez des prophéties. Une prophétie qui ne viendrait pas de Dieu aurait l'effet contraire sur votre foi. Alors, tendez votre oreille à la vraie prophétie. Dieu parle. Vous comprenez pourquoi la Bible nous demande de faire preuve de discernement, de ne pas souffrir de cette démangeaison dont souffre de plus en plus les gens aujourd'hui, d'entendre, de suivre des choses agréables à leurs oreilles. Voyez-vous? Voyez? Des choses qui suscitent en eux une certaine réaction émotionnelle. Je sens. Oh, gloire à Dieu. Oh, Dieu est là. Oh, très. On n'a pas besoin de Dieu pour ressentir ces choses-là. Tous ceux qui se shootent, qui prennent un peu de drogue et tout ça, eh bien, sombrent dans des états de délire, dans des états d'exaltation. L'incrédulité, voilà le danger des morts. Voilà l'obstacle dans notre cœur. Puisqu'il en est ainsi, alors faisons attention au genre de message que nous entendons. Faisons attention. Quelquefois, les gens me transfèrent des vidéos. Je me dis, mais est-ce que la personne est vraiment convertie? Ça fait des années que je connais la personne. Comment peut-elle me transférer une vidéo avec des enseignements qui sont à des années-lumière de la parole de l'Évangile? Rejetez tout cela, mais ne jouez pas avec le feu des ténèbres. Oh, mais ça fait rien. J'aime bien l'entendre. Il amuse la galerie. J'aime bien l'entendre. Quand lui parle, je rigole. Mais la Bible n'est pas là pour nous faire rigoler. Si vous avez besoin de rigoler, eh bien, allez, nous avons des théâtres ici, hein. Voilà. Le théâtre de chez nous, ça existe encore, hein. Ou alors, il y a des programmes dans différentes chaînes de télévision où vous avez des comédiens et tout ça. Et là, allez rigoler. Mais quand on vient à l'église, l'église est la maison de Dieu, la colonne de la vérité. C'est le lieu où les gens doivent apprendre ce qu'est la sainteté de Dieu, ce qu'est la crainte de Dieu. Ils doivent comprendre que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu est juste, qu'on ne peut pas le manipuler. Vous ne pouvez pas vivre dans le péché et puis en même temps vous contenter de ceci ou de cela. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous lui donnions notre cœur, qui vaut plus que tout. Or, notre cœur, dans la plupart des cas, eh bien, est complètement englouti par l'incrédulité. Nous entendons le message. Certains, même pendant que je prêche, sont ailleurs. Revenez, s'il vous plaît. Nous avons quelques termes que le Nouveau Testament grec utilise pour exprimer cette réalité terrible pour nous décrire ce monstre redoutable. J'en prendrai juste deux. Il y a le terme apistia, le a privatif grec que nous trouvons dans certains mots comme athéisme, le fait de ne pas croire en Dieu, non-croyance en Dieu, etc. Et dans d'autres noms. Apistia, c'est un manque de foi. C'est l'absence de foi. Et dans le Nouveau Testament, ce terme stigmatise ce manque de foi. Apistia, traduit par l'incrédulité. Non seulement l'absence de foi, mais aussi une foi insuffisante. Voilà pourquoi les disciples, à un certain moment, ont demandé au Seigneur, augmente-nous la foi. Pour certains, la foi ressemble à une sorte de gélatine. C'est-à-dire, ça n'a aucune consistance. Et le deuxième terme, c'est oligopistia, oligos, c'est-à-dire petite oligarchie. Pour ceux qui ont fait science politique, c'est la domination d'un petit groupe sur les autres. Les oligarques, vous avez entendu parler de ça, par rapport à la Russie et tout ça. Oligopistia, c'est petite foi. Voyez-vous, ou peu de foi. Voilà comment la Bible décrit la petite foi, une foi insuffisante, l'absence de foi. Quand je parle d'absence de foi, cela ne veut pas dire qu'il y a forcément l'athéisme, on ne croit pas en Dieu, etc. Non. On peut continuer à avoir une certaine croyance intellectuelle, adhérer intellectuellement aux déclarations de la parole de Dieu. Jésus est Seigneur. Amen. C'est simplement un assentiment intellectuel. Non, je parle de cette foi qui vient de la parole de Dieu. Alléluia. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient du rhéma du Christ. Gloire à Dieu. Voyez-vous. Si la vraie foi vient de la parole du Christ inspirée, ça veut dire tout ce qui n'est pas inspiré. Quand bien même cela aurait une coloration, une certaine coloration religieuse ou de vérité, eh bien, cela devra être rejeté absolument. Donc le péché d'incrédulité est parmi les plus dévastateurs. Lorsque l'incrédulité occupe toute sa place en nous, eh bien cela finit par nous aveugler. L'incrédulité nous égorge. L'incrédulité nous aveugle. L'incrédulité nous endort, nous plonge dans une sorte de torpeur ou de léthargie et finit petit à petit, peu à peu, par nous plonger dans un état de coma spirituel. Quand quelqu'un est dans un coma, il est plongé dans un coma, ben il ne peut plus rien faire. Il dépend entièrement de son environnement, oui ou non. Il est intubé, il a des appareils pour ceci, certains de ses organes ne fonctionnent plus, alors on vient en appui avec des machines, etc. Et malheureusement, tel est le cas de beaucoup d'hommes et de femmes qui n'ont pas compris que le premier combat, c'est contre nous-mêmes. Le premier lieu de bataille dans laquelle nous sommes engagés, c'est en nous. Oui, l'incrédulité est un monstre, une sorte de dragon contre lequel nous devons nous battre. Ce monstre nous couvre de son ombre mortifère. Il nous aveugle, nous empêche de voir resplendir la gloire de notre Sauveur. Nous empêche de vivre une vie glorieuse en Christ. Oui, l'absence de foi, une foi insuffisante ou peu, est une forteresse contre laquelle nous devons nous attaquer, que nous devons renverser, comme avec les murailles de Jéricho. C'était par la foi L'auteur de l'épître aux Hébreux nous le dit. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées. Nous aussi, nous devons faire tomber ces murailles. Oui, l'incrédulité crée un gouffre abyssal entre Dieu et nous. Voilà, nous le voyons loin. Seigneur, tu es majestueux, tu es la lumière du monde, tu es tout puissant. Mais incapable, mes amis, de saisir ce Jésus-là et d'expérimenter la puissance de sa parole. Et incapable de nous approprier des promesses qu'il nous a faites. Juste deux exemples qui illustrent, mes amis, combien l'incrédulité est quelque chose de terrible, d'affreux. Combien il est un monstre qui empêche à l'homme d'expérimenter la victoire, la puissance de Jésus. Dans Matthieu 13, il nous est dit que le Seigneur est allé à Nazareth. Il s'est rendu dans sa patrie, là où il avait été élevé à Nazareth. Et là, comme il en avait l'habitude partout où il allait, eh bien, il a commencé à enseigner la parole de Dieu dans la synagogue de Nazareth. Et tous ces gens qui étaient là furent étonnés, stupéfaits d'entendre de tels enseignements, d'entendre la sagesse qui sortait de la bouche du Seigneur. Ils ont tous réagi parce qu'ils l'ont connu. Hein. Tous savaient qu'il était le fils du charpentier, Joseph. Tous savaient que ses frères et ses sœurs, car après la conception miraculeuse virginale du Seigneur, Marie et Joseph ont continué leur vie de couple. Vous me suivez? Lisez la Bible. Ne donnez pas foi à tout ce qui se raconte. Donc, alors ils réalisaient, mais d'où lui vient cette sagesse? Comment expliquer qu'il parle ainsi? N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère, ne s'appelle pas Marie? Combien de fois on a été avec sa maman puiser de l'eau à la rivière? Mais comment expliquer qu'il parle ainsi, qu'on entende des miracles un peu partout? Ses sœurs, oui, il avait des sœurs, ne sont-elles pas parmi nous? Ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude, et ils étaient pour le Seigneur une occasion de chute. Écoutez ce que la Bible dit, conclut, le Seigneur lui-même leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et à cause de leur incrédulité, Jésus ne fit pas beaucoup de miracles à cause de l'absence de foi. Tous ces gens pouvaient dire tant de choses, tant de vérités sur lui. Fils de Joseph et Marie, de ses sœurs, etc. Mais c'est insuffisant. Ils ont été aveuglés par leurs a priori, par leurs préjugés. Et à cause de cela, ils n'ont pas laissé la parole du Christ susciter en eux la foi dont ils avaient besoin pour expérimenter le miracle. Encore une fois, l'incrédulité, ce monstre, a étendu son ombre. Mes amis, sur cette petite ville de Nazareth où le Seigneur avait été élevé, empêchant du coup ces gens-là d'expérimenter la puissance du Seigneur. Un autre exemple, le tout dernier. Le Seigneur, avec ses disciples, ses trois disciples, vient d'expérimenter quelque chose d'extraordinaire sur la montagne de la Transfiguration, le mont Tabor, et puis ils descendent. Et à leur descente, un homme vient, il se jette aux pieds du Seigneur. Il implore sa grâce. Il dit, Seigneur, aie pitié de mon fils. Mon fils est possédé. Mon fils est lunatique et malade. Il arrive que lorsque cette possession ou sa maladie, parce que jusque-là, il ne savait pas que c'était un démon, quand ça lui prend, eh bien, on le jette dans le feu, dans l'eau, etc. J'ai amené mon fils à tes disciples, mais ils n'ont pas pu chasser ces démons. Ils étaient à la bonne école. Ils avaient entendu tant de choses. Ils avaient vu tant de choses de la part du Seigneur. Cependant, ils ont été incapables. Le Seigneur répond, Il regarde ses disciples, il dit, race incrédule. Race incrédule. Et puis ensuite, il guérit l'enfant. En chassant le démon part. L'enfant est délivré. Oh, alléluia. Et là, il leur dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus menaça le démon qui sortit du garçon et celui-ci fut guéri à l'heure même. Et là, on peut avancer vite, s'il vous plaît. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus, lui dire en privé, en aparté, hein, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons, Seigneur? C'est à cause de votre petite foi, leur dit Jésus. Vous voyez, mes amis, l'incrédulité. C'est un frein à l'œuvre de Dieu en nous. C'est un obstacle majeur en nous. Voyez-vous? Et cela empêche au Saint-Esprit de travailler nos cœurs. Le plus grand travail commence à l'intérieur. Et pour que le Saint-Esprit travaille, il faut qu'il rencontre une attitude de foi. Oh, alléluia! C'est dans la mesure où nous laissons l'Esprit du Seigneur travailler en nous, qu'alors il nous transforme de l'intérieur. Il nous amène et nous introduit dans une vie de gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors que le Saint-Esprit nous transforme en réponse à notre foi, eh bien, l'incrédulité nous déforme. Alors que le Saint-Esprit nous transfigure, l'incrédulité, elle, nous défigure. Vous voyez, fait un travail terrible en nous. Nous devons être transformés si nous voulons triompher. Et cette transformation, c'est en nous. Et cela ne peut être rendu possible que par l'action du Saint-Esprit en nous. Alléluia. Mais le Saint-Esprit doit trouver une attitude de foi. Doit trouver un cœur qui repose entièrement sur le Seigneur. Vous voyez? Notre foi doit reposer sur la puissance de Dieu. Paul le dit dans 1 Corinthiens. Mon discours, ma prédication, ma parole, eh bien, ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, de la théologie des gens. Mais ma parole et ma prédication reposaient entièrement sur une démonstration de puissance et d'esprit. Et afin que, poursuit-il, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Voyez? Une parole inspirée va susciter la foi, parce que c'est une parole puissante. Et notre foi doit reposer sur la puissance de Dieu, et non pas sur des enseignements pernicieux, sur des fausses doctrines, sur des fausses prophéties. C'était le même problème avec les Galates. Quand il écrit aux Galates, il leur dit aux Galates, stupides, insensés, qui vous a ensorcelé? Qui vous a jeté ce mauvais sort? Est-ce par les œuvres de la loi? Voilà, laissez la barbe, donnez la dîme, même si cela est important. Les œuvres de la loi, est-ce par ces œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Ou alors c'est en écoutant le message de la foi? Voyez-vous, le message de la foi suscite la foi. Mais si c'est des discours habilement conçus, voyez-vous, qui reposent sur la capacité cérébrale et oratoire du prédicateur, quand bien même cela susciterait en nous un certain enthousiasme, ça réveillerait en nous des sentiments ou des émotions, eh bien cela ne ressemblerait à rien si ce n'est à une manifestation de l'incrédulité. Oui, il y a un lien entre le Saint-Esprit et la foi. Oh, alléluia. C'est ce que Paul explique. Notre victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voulons-nous vivre pleinement le triomphe du Christ? Alors laissons le Saint-Esprit nous transformer. Et il ne peut nous transformer que dans la mesure où nous faisons montre d'une foi ferme. Comme nous le savons tous, Romains 10, 17 nous le dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Voilà, c'est ça la foi. Le Saint-Esprit ne va pas agir parce que vous avez entendu des propos venus, je ne sais de quel bishop ou quadrichop, pas du tout. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous apporte aussi une lumière supplémentaire sur la foi. Hébreux 12, lorsqu'il nous dit « Courons en tournant nos regards vers Jésus, qui est l'initiateur de la foi et son accomplisseur. » Ce que nous avons traduit par « Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. » Il est l'auteur, celui qui suscite la foi en réponse à sa parole, et en même temps, il est celui, mes amis, sur qui doit reposer la foi, et qui fait grandir cette foi. Ce n'est pas en écoutant des choses qui viendraient je ne sais d'où, non. L'autre, il est l'initiateur et l'accomplisseur. Il est l'alpha et l'oméga de la foi. Et entre les deux, c'est encore sur lui que repose la véritable foi. Alléluia. Alors, cherchons ce contact intime avec la parole de Dieu. Dans cette année qui arrive bientôt, eh bien, privilégions l'écoute de la parole, la vraie. Arrêtons de courir, ça et là, à la recherche des prophéties ou même des miracles. Le diable peut vous en donner. Mais soyons des hommes et des femmes qui prennent du plaisir à écouter la parole. Car c'est à partir de la parole du Christ que la foi va naître. Et avec cette foi, le Saint-Esprit va agir. Il va nous transformer. Il va nous transfigurer. Il va nous métamorphoser pour nous amener dans une vie qui va crescendo, qui va donc de gloire en gloire. Une vie qui va de victoire en triomphe. Voilà ce qui doit se passer en amont. Être transformé pour vivre pleinement le triomphe de Jésus. Amen.